avant de parler de post-vérité, bah, je vais parler de vérité. Parce que, bon, j'y reviendrai. Mais c'est important, quand on parle de vérité, de quoi parle-t-on ? Alors, dans le monde de la recherche, c'est ce que j'ai écrit, dans le monde des médias, la vérité, c'est quelque chose de partagé. Ça permet d'établir la vérité des faits. Donc, c'est ce qui permet l'échange de points de vue et la construction de nouvelles objectivités. C'est-à-dire que ce n'est pas figé dans le marbre, ce ne sont pas les croyances, c'est fait pour être réfuté, preuve et réfutation, hein, et afin de construire en permanence de nouvelles objectivités partagées dans les domaines de connaissances respectifs, mais aussi au niveau de la société, ce qui nécessite un échange important. Derrière les questions de vérité et de cet échange, il y a la construction d'un monde commun. Et là, on voit que la situation peut être quand même assez dramatique sur la reconnaissance de ce monde commun. La reconnaissance d'un bien commun, hein, dans le partage et la construction des connaissances, et vont avec les caractéristiques de la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité, et donc pas de liberté, de vérité et de responsabilité sans limite reconnue et partagée. Et donc, c'est une démarche d'établissement permanente. Comme nous disions tout à l'heure, avant que vous arriviez, parce qu'on parlait toutes les deux, c'est la même chose que savoir, c'est apprendre sans cesse. Qui dit « je sais », c'est le diplôme, mais comme avait écrit Paul Valéry, est l'ennemi mortel de la culture. Parce que ça fixe les choses à un moment donné, de dire « ah, j'ai eu tel diplôme à telle période ». Et d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait depuis ? Le diplôme, c'est un mode d'évaluation, etc., à un instant T. C'est l'ennemi mortel de la culture si on s'en tient à des faits comme ça de diplôme. Si on fait pas cette démarche d'établissement, de remettre en cause ce que l'on sait et d'apprendre sans cesse, on désapprend. Et ça, c'est sûr. Et on parle beaucoup de culture, mais on parle peu de déculturation. Et la déculturation de masse, dans le monde où nous sommes, elle est quand même quelque chose de très, très massif. Vérité des faits, donc démarche d'établissement permanente. Et là, sur cette vérité des faits, il y a donc le problème des données et de leur attestation. Elsa me disait qu'elle s'intéressait au big data. Et donc là, on a affaire justement à des données non attestées, au fait qu'on peut capturer des choses hétérogènes, les mettre ensemble et s'intéresser uniquement à leur corrélation pour faire émerger des liaisons entre plusieurs variables, mais d'où ça vient, et on les qualifie comme faits, ce qui pose vraiment des problèmes. Donc tout corpus, et moi qui suis linguiste de corpus, là je parle de mon domaine, hein, dépend d'un point de vue qui a présidé à sa constitution, c'est-à-dire les données, c'est ce qu'on se donne. Ça, c'est un point de vue fondateur. Si je suis en biologiste, je décide de mettre sur ma paillasse une souche de souris ou une souche de bactéries, c'est moi qui le décide, et je maîtrise les conditions de l'expérience. J'aspire tout du web et j'en tire des conclusions. Ça vient d'où ? Je mets des choux, des carottes, des machins. C'est comme si un archéologue cassait plein de poteries et prenne des bouts de toutes les poteries et dise « ça, c'est un vase, je ne sais pas d'où ». Voilà. C'est à peu près la même chose. La démarche d'objectivation et les conditions de possibilité, alors là, j'ai mis C.F. Cassirer, qui est un philosophe allemand trop méconnu, dont j'invite vivement à la lecture. Alors, je vous invite vivement à la lecture. Je ne suis pas une spécialiste historique de Cassirer. Moi, Cassirer, je l'ai découvert il y a relativement peu de temps. Et je dois dire, je me suis dit, mais bon sang, si j'avais lu ce monsieur avant, j'aurais compris beaucoup plus de choses. Voilà. Ben non, mais l'histoire n'a pas retenu Cassirer. Dans la philosophie allemande, dans la lignée de Husserl, l'histoire a retenu Heidegger. Je ne traiterai pas du problème Heidegger, qui est un vrai problème. Mais le problème de Cassirer, c'est que justement, il a été complètement minoré. En plus, il s'est émigré aux États-Unis, il est mort en 1945. Et donc, alors que les philosophes, une partie de la philosophie allemande a été décimée, la philosophie allemande a prospéré dans le sillage d'Heidegger après-guerre. Elle a fait plein de petits en France. Voilà. C'est pas l'objet du débat, mais ça peut venir dans le débat. Voilà. Alors, le point de vue de Cassirer, c'est donc le philosophe des formes symboliques. Et donc, pour parler de vérité, c'est important. Je commencerai là-dessus. Je ne l'ai pas mis dans mon résumé, mais je commencerai là-dessus parce que j'y reviendrai à la fin, sur la question des mots et de la maltraitance des mots. Et là, comme linguiste, c'est important. L'objectivité, d'un point de vue de Cassirer, donc je vous ai parlé de la vérité, de l'objectivité, de cette démarche d'attestation non permanente, hein, n'est pas référence donc à un prédonné qui serait là, mais la forme symbolique forme comprise comme organisation, structure ou gestalt, hein, le mouvement de la gestalt est un peu connu, sa structure signifiante pour un certain milieu est donc dite symbolique, au sens où elle produit des signes en interaction, confère ce que j'ai dit avant sur la vérité, qui est une question d'interaction, hein. Interaction donc normée selon les milieux. Les formes symboliques sont le langage, le mythe est une des formes symboliques, mais aussi la science, qui correspondent à ce que Saussure, le linguiste, nommait les institutions. Et donc, cette question-là n'est pas une question... ça me permet de cadrer mon propos, parce que si on revient sur des questions de quel est le sens partagé, qu'est-ce qu'on, puisque c'est pas une démarche d'objectif, il faut voir les conditions de possibilité de cette démarche d'établissement. L'objectivité avait exposé Michel Bidbol, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, je pourrais y revenir, qui est un philosophe scientifique assez connu. Il avait communiqué à une conférence à laquelle j'avais assisté et à laquelle je communiquais aussi. Enfin, il avait appelé sa communication l'objectivité comme l'expérience d'objectiver. Et alors, il avait dit la chose suivante : l'objectivité est la conséquence de l'application intériorisée d'une norme et la réalité décrite à partir d'elle, de cette norme, ce que l'on décrit nous les humains, est le produit raffiné, distillé, dépouillé d'un vécu, restreint par la contrainte normative et non pas la chose elle-même. Donc déjà, dans l'activité scientifique, il y a des choix. Ce n'est pas la chose, c'est en fonction de nos connaissances, l'interprétation de la chose. Ça ne veut pas dire que tout se vaut. L'interprétation a appuyé sur nos connaissances, partagées à un moment donné, dans un domaine donné. Et ce qui signifie... il s'est référé de ce point de vue-là sur le rapport du sujet à l'objet, de l'objectivité, de la subjectivité. J'y reviendrai parce que c'est une question très importante quand on parle des fake news, quand on parle de post-vérité, parce que on a toujours tendance, enfin, les critiques sont ça c'est pas scientifique parce que c'est subjectif. Et donc les conditions du particularisme ne sont pas prises en compte. Or, il y a bien des conditions du particularisme. C'est Husserl qui avait écrit un bouquin. Bouquin d'ailleurs, des bouquins qu'on n'écrit plus aujourd'hui, c'est un bouquin qui doit faire 70 pages, qui s'intitule La philosophie comme science rigoureuse. Alors c'est un petit texte de 70 pages qui est précédé
un opuscule
qui est précédé de 60 pages d'introduction du traducteur et de 70 pages ou 80 pages de notes de Husserl. Alors ça, si c'est pas un bouquin qui est interprété par le traducteur avec ses choix de traduction, par l'auteur, enfin traduit en français, hein, malheureusement, j'ai parlé un peu allemand, mais je ne lis pas l'allemand comme toi, et les notes de Husserl, et là, on a le point de vue de l'auteur sur ses propres notes et le point de vue du traducteur. Ça, c'est des bouquins les plus intelligents, et les éditeurs font plus ça aujourd'hui. Hein, je sais pas si tu as remarqué, il y a plus. Moi, j'ai trouvé que chez un bouquiniste, ce bouquin. Donc... Bidbol s'était référé à Popper et Popper avait eu la phrase suivante dans un de ses bouquins republié en 2014, je m'excuse, j'ai pas noté le titre, sur le fondement des sciences objectives. L'objectivité de la science a nécessairement pour prix sa relativité et qui veut l'absolu doit le chercher dans le subjectif. Je dis ça parce que la question de la relativité reviendra parce qu'on a le relativisme absolu. Tout se vaut et rien ne vaut. Tout est relatif. Et là, c'est un sacré piège. Quand on parle de post-vérité, quand on parle de fake news, quand on parle de propagande, c'est un petit peu autre chose. Il faut vraiment réfléchir, tisser des lignes assez ténues de démarcation. Mais des lignes ténues, mais non franchissables. Et donc, le philosophe des formes symboliques, Ernst Cassirer, je ne vais pas trop m'attarder sur lui, mais néanmoins, c'est important, puisqu'en plus, ses propos sont peu connus. Hein. Donc, je vous renvoie aux trois bouquins « Philosophie des formes symboliques ». Et c'est le philosophe de la connaissance, hein, Cassirer, contrairement à Heidegger, qui a dit « la science ne pense pas ». Il s'attache à déterminer le mode d'être au monde de l'objet culturel pour tenter de résoudre le problème de l'objectivité dans les sciences de la culture. Il est l'auteur d'une logique des sciences de la culture. Et les sciences de la culture concernent toutes les sciences. Dont la caractéristique justement est de tirer de l'intelligibilité du particularisme lui-même. Et ces dernières, les sciences de la culture, sont bien plus aptes à rendre compte des processus de transformation des représentations partagées, autrement dit des connaissances. Et c'est bien de transformation dont il s'agit. toutes nos connaissances sont métastables. Et dire ça, c'est pas les invalider.
Les invalider.
Merci. C'est justement se poser en permanence la question de leur attestation. Et ça, c'est une démarche déontologique qu'on devrait adopter en ce qui concerne ces représentations partagées, donc ces connaissances et donc ces valeurs. Et Cassirer s'est attaché donc justement à la compréhension des conditions de stabilisation transdomaniale des valeurs et comment ces connaissances se stabilisent et donc au caractère métastable de toute activité de connaissance. Voilà. Car si la connaissance est singulière, objectivée, c'est l'expérience d'objectiver. C'est l'expérience que je fais d'objectiver, donc singulière forcément. Elle ne se fige en chacun de nous puisqu'elle n'est connaissance que reçue par un autre. Il n'y a connaissance que transmise, sinon il n'y a pas connaissance. C'est à ce niveau d'intersubjectivité en acte et dans une dimension herméneutique et forcément historique, philologique on va dire, dans la lignée des écrits précédents, qu'il définira la spécificité des sciences de la culture. Mais donc, quand je vous dis que ça comprend toutes les sciences, c'est que c'est vrai que cette démarche d'attestation permanente et cette philologie des écrits passés sur lequel, comme a écrit Newton, je vois plus haut parce que je suis montée sur les épaules d'un géant, se passe l'évolution de nos connaissances, y compris leur réfutation, bien entendu. Hein, on refait pas les choses tous les jours comme si elles n'avaient jamais existé. Et donc, c'est ce travail d'intersubjectivité qui est la fondatrice du travail scientifique au sens où elle impose une démarche de mutualisation critique des connaissances. Le dernier point, donc c'est ça le point de vue entre le point de vue et l'objectivité, cette tension entre les deux. Je vous conseille un excellent bouquin d'un philosophe qui est passé par l'université de Caen qui s'appelle Jean Lassègue, qui a écrit un bouquin en 2016 qui s'intitule « Cassirer du transcendantal au sémiotique ». Cassirer est parti des mathématiques et des groupes de transformation de Klein pour penser les connaissances et leurs transformations. Comment on parle de la géométrie pour passer aux formes symboliques. Son ouvrage est remarquable, il est édité chez Vrin. Je vous invite vraiment à sa lecture. Alors, un autre bouquin aussi qui fait bien la part entre fait et fiction, c'est l'ouvrage assez récent de Madame Françoise Lavocat, paru en 2016, hein, pareil, qui s'intitule « Entre fait et fiction pour une frontière ». La fiction, vous savez ce que c'est, hein, le genre romanesque en est. Et donc, elle parle dans son bouquin d'une hybridité essentielle de la fiction. C'est-à-dire que la fiction n'est pas séparée de la réalité. C'est une hybridité qui est essentielle à sa constitution. Et c'est les conditions de possibilité d'une culture de la fiction qui sont interrogées, et donc ses limites dans son bouquin. La fiction comme un monde possible, pensée dans son ontologie propre et se concentrant sur les relations des personnages. Et la fiction, c'est essentiel. C'est la frontière entre la fiction et les faits qui est essentielle à comprendre, même si la fiction permet de comprendre les faits. Le roman historique permet de comprendre bien des choses. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage de Cassirer, qui a été édité en français, pardon, en 91, Cassirer prend l'exemple de l'épopée. Hein, il a écrit « Si l'épopée n'avait d'autre vertu que de retenir les événements passés pour nous les remettre en mémoire, rien ne la distinguerait d'une simple chronique. » Mais l'épopée est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Nous sommes transportés au fil des récits épiques et c'est une vision du monde qui éclaire d'une lumière nouvelle la totalité de l'événement et la totalité de l'humanité. Quand on lit Homère, quand on lit l'Odyssée, quand on lit Dante, ce n'est pas un récit. C'est la construction de l'humanité qui est, donc elle est hybridée avec notre culture et avec notre connaissance du monde. Voilà. La lecture donc de la fiction aiguise nos compétences de vie en société, donc elle est tout à fait essentielle. Le monde fictionnel est alternatif, nous décrochons de notre moi, hein, du selfie et de tout ce qu'on veut bien, de notre environnement, de ce que nous nommons le réel. La fiction offre l'illusion de la présence, le moyen de transmission des connaissances historiques. Et ça, c'est essentiel, parce que quand au théâtre, le personnage meurt sur la scène, on sait qu'il va se relever pour saluer. Et c'est justement... C'est parce qu'on sait que c'est de la fiction, on sait qu'il va se relever. Et c'est justement le brouillage entre la fiction et la réalité, il suffit de prendre les discours de Trump, qui donne la voie, qui ouvre la voie des faits alternatifs. Tout est possible, il n'y a plus de différence entre la fiction et les faits. Je peux inventer n'importe quoi. Voilà. Et donc cette frontière est essentielle, et elle est constitutive comme est constitutive l'épopée ou toutes les œuvres culturelles que nous avons lues ou que nous lisons et dans lesquelles, même s'ils ont 200-300 ans, on se reconnaît quelque chose, on reconnaît une transmission, on se reconnaît, on y prend part. Voilà. Et donc, cette tradition humaniste a quand même été bien mise à mal par les sciences elles-mêmes et par une autre tradition de scepticisme radical particulièrement illustrée au XIXe siècle, celle qui a balayé la culture humaniste de la Renaissance comme savoir non vraisemblable, erreur anthropologique, hein, c'était quand même fort, et défaut de l'humanité dont il faut bannir le point de vue individuel. C'est-à-dire que les sciences se sont construites contre les sciences dures. C'est pour ça qu'on dit les sciences dures et puis les autres, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon. Et donc, l'erreur des soi-disant sciences humaines, c'est justement de prendre en compte le point de vue individuel. Ça serait de prendre en compte le point de vue individuel. Voyez comme quoi l'ouvrage de Cassirer sur les formes symboliques est quelque chose d'important aujourd'hui pour penser notre monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté là-dessus. Donc, concevoir la vérité comme quelque chose qui existe en dehors de nous, ça, c'est très, très bien développé dans le bouquin de Françoise Lavocat et La fiction s'invente, la vérité se découvre. Mais les deux sont importantes, à condition de maintenir une frontière. Elle est indispensable. Sinon, on entre dans le mythe, dans tout ce qu'il a de plus mauvais, dans tout, enfin, de plus délétère, dans la pensée mythique, qui veut dire qu'on prend les valeurs des Grecs pour fonder la civilisation allemande telle que l'a fait le Troisième Reich. Et c'est là-dessus que c'était largement opposé, d'ailleurs, Paul Ricoeur à Heidegger, en disant, mais il y a une coupure, c'était les Grecs. Un Reich pour Milan, c'est la pensée mythique. Eh ben non, il y a eu le temps des Grecs, et voilà. Et la pensée heideggerienne est une pensée mythique. Bon, vous allez dire, il faut vraiment que j'en parle, mais non, ce n'est pas l'objet. Voilà, alors, en ce qui concerne l'époque de post-vérité, là, j'ai parlé un petit peu de vérité, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Donc, quand on parle de post-vérité, on parle de période. Alors, contrairement à ce qu'affirment certains écrits, j'en parlerai aussi à la fin de mon propos, il y a eu beaucoup de bouquins. Il y a eu une quarantaine de bouquins de publiés sur la post-vérité qui sont des fois très intéressants sur les fake news. Ça ne veut pas dire que celui qui est publié, c'est le meilleur du siècle. Je veux dire, bon, il a son optique que je vais développer, celle de trouver des solutions et pas faire des constats. Trouver des solutions. D'élaborer des pistes de solutions. Soyons modestes, d'élaborer des pistes de solutions. Et ben, c'est vrai que le mensonge a toujours existé, mais quand même, aujourd'hui, il prend une dimension tout à fait dramatique. Il prend une dimension tout à fait dramatique parce que c'est bien ce que nous, on a compris à Sciences Citoyennes, mais on n'est pas les seuls, heureusement. C'est que cette question est d'importance à l'heure où plusieurs facteurs contribuent à instaurer une situation aussi menaçante qu'inédite à l'échelle de l'humanité, et j'ai mis les éléments, sans les compléter, les éléments de cette situation aussi inédite qu'angoissante. On a l'affaire du réchauffement climatique, on a eu non pas le nouveau rapport du GIEC, mais le point de vue du GIEC, c'était un truc différent qui est sorti fin 2018 et qui donne quand même 2 ans pour changer de cap au niveau planétaire, ce qui est une situation mondiale inédite. Aucun de nos ancêtres s'est trouvé dans cette situation. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un consortium de étatique, de gens. Et pourtant, le discours du GIEC est quand même un peu éludé entre les rapports préliminaires, etc. Ça passe sous les fourches codines des États. Et bien, c'est quand même ce rapport qui est sorti. Et 2 ans pour changer notre boussole avant d'arriver à des phénomènes de rétroaction positive pour lesquels on ne pourra plus rien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le vis mal. Bon, on essaie de rester debout et trouver des solutions. Bien. Donc on est quand même dans un contexte particulier, doublé d'un populisme politique. Hein. Trump a été pas le premier, mais l'élément quand même assez emblématique pour un pays qui s'appelle les États-Unis. Bon, depuis, on en a d'autres. Complotisme favorisé par l'effet des multiplicateurs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas que ça, mais ils sont aussi ça. Lobbying généralisé, etc., etc. Bien. Donc les likes pour dire qu'on aime. Est-ce que cette histoire est vraie? Si Google le dit, c'est que ça doit être vrai. Voilà. Et donc, les facettes de la post-vérité, alors là, c'est vrai qu'au départ, mais on a novembre 2012, le fameux tweet de Donald Trump, le concept de réchauffement climatique attribué aux Chinois. Et donc, ça, c'est quand même un élément d'importance. Et alors, les facettes de la post-vérité, parce qu'il y a énormément de mots. Hein, il y a eu Bullshit, qui est l'ouvrage de... Comment il s'appelle ? Bon, j'ai oublié son nom, mais... bref.
Dieguez, non, je crois.
C'est... bon, c'est pas grave. Alias la foutaise. Trump ne ment pas. Ben oui, Trump ne ment pas. Il se fout de la vérité. Le menteur, au moins, il a une... Il sait qu'il ment. Enfin, il sait qu'il ment, ou voilà. Mais Trump, non, il se fout de la vérité. Et on a le problème de la foutaise médiatique. Alors, ce problème du flux d'informations aujourd'hui est un vrai problème. Hein. Ce matin, enfin, je disais à Elsa tout à l'heure, quand nous déjeunions, j'ai dit, oh ben, ce matin, tiens, j'ai écouté France Info en me disant, oh, il va y en avoir une. Il va y en avoir une du flux médiatique où tout se vaut, tout se suit de seconde en seconde. Bah, France Info, 7h15, je crois, ce matin, c'était l'América, je sais pas quoi, là, le bateau, bref,
qui le naufrage,
le naufrage de l'América, je sais plus comment
Grande
son nom.
América,
Grande América. Oui, voilà. Contient plusieurs milliers de tonnes de déchets toxiques, de la résine, de l'acide sulfurique ou un truc comme ça. Première phrase. Deuxième phrase. Les Français sont de plus en plus fatigués, ils dorment de moins en moins. Deuxième phrase. Vous êtes habitués à ça, avec le jingle, vous savez. Enfin, je veux dire, c'est un flux continu pour maintenir l'addiction à. Et puis alors ?
Et l'absence de hiérarchisation.
Et voilà. Et alors ? C'est quand même angoissant de savoir que ce cargo qui est au large des côtes, il contient des flux toxiques. C'est comme un matin, on apprend. Enfin, bon, moi, j'ai plus d'enfants qui mettent des couches culottes, mais bon, on en a tous eu, on en a encore. On apprend qu'il y a des pesticides dans les couches culottes. Vous êtes parents, vous apprenez ça. Bah oui, et quelle marque ? Quel pesticide ? Pouf, puis la formation après. Alors, faut aller... bah oui, mais il y a le secret des affaires qu'a fait voter Macron. Bah, qu'on ne sait pas quel produit, parce qu'il ne faut pas le dire. Enfin, quand même. Enfin, je veux dire, c'est une situation complètement anxiogène, ça. Et on passe à l'information suivante, et on ne sait pas la suite. Voilà. Bon. Donc, ce flux d'informations est tout à fait délétère. La foutaise, donc, est en gros... dire n'importe quoi, mais en gros, elle est bien utilisée pour gagner du temps. C'est-à-dire, c'est un peu, je coupe la queue de mon chien, tout le monde va parler que j'ai coupé la queue de mon chien, pendant ce temps-là, on ne parlera pas d'autre chose. C'est ce qu'illustre très bien Pascal Angèle, qui est un des contributeurs du bouquin, en disant, c'est le mot du courtisan d'autrefois, pour briller en communauté, c'est le buzz. Voilà, on dit n'importe quoi pour faire le buzz. Voilà. L'important, c'est qu'on parle de vous, même si c'est de façon délétère. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave, parce que c'est pas le fait qu'il y ait des mensonges qui soient graves, c'est que ces mensonges, ceux qui les professent, enfin, ils continuent et puis c'est pas grave. Un homme politique peut dire les choses les plus aberrantes, le lendemain il recose et puis c'est pas grave. C'est-à-dire il n'y a plus d'opprobre. Voilà, ça hier j'ai dit ça, mais aujourd'hui je veux dire autre chose. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est complètement banalisé. Alors, à la question de la temporalité du vrai et du faux, donc la temporalité est nécessaire pour défaire le mensonge. Hein, c'est même beaucoup de temps qu'il faut pour défaire le mensonge. Et le pseudonymat et la responsabilité sont complètement... alors, le pseudonymat, c'est le contraire de la responsabilité, permettent de maintenir une invisibilité, et cette invisibilité est tout sauf de la responsabilité. Et donc, sur le tweet de Trump sur le concept de réchauffement global a été créé par les Chinois dans leur propre intérêt pour rendre, c'est ce qu'il dit dans son tweet, pour rendre l'industrie états-unienne non compétitive, c'est donc l'invention d'une invention. C'est-à-dire que il invente de toutes pièces une histoire dans laquelle une connaissance solidement établie, celle du réchauffement climatique, se transforme en une histoire inventée par les Chinois, histoire inventée totalement par Trump, dont il sait que c'est invraisemblable. Il se soucie d'ailleurs pas d'y apporter la moindre preuve, et il n'y a aucun sens à se demander s'il y croit lui-même. Voilà. C'est ce qu'a bien souligné Matthew Zancona dans un bouquin qui a été traduit en français en 2017, qui s'intitule « Post-vérité, guide de survie à l'ère des fake news » aux éditions du plein jour. C'était en 2018. C'était, 2017, c'était sa version états-unienne. Alors, quant à la foutaise médiatique, bah, c'est « just talking hein, », c'est parler de l'information pour de l'information. Donc, les trucs qui se succèdent, la masse, la rapidité, la variété, le flux médiatique et le flux politique qui l'accompagne, la notion d'indistinction dont tu parlais tout à l'heure, et donc la disparité qui aplatit tout, et donc qui consiste à créer une espèce d'addiction pour être au courant, soit des derniers likes nous concernant, enfin pas trop moi, parce que j'en ai pas, mais c'est pas bon, Et du coup, on a une immersion dans l'information qui entrave toute prise de distance critique. Et c'est bien ce qu'ont remarqué toutes les personnes qui ont travaillé en interprétation, donc dans la philologie des ouvrages sur l'interprétation, qui dans les ouvrages qui traitent d'herméneutique, hein, et qui ont été d'ailleurs repris par Ricoeur. Macron a beaucoup cité Ricoeur au début de son mandat. Je crois qu'il ne cite plus, je crois qu'il ne l'a pas lu. Enfin, il a été en licence juste le secrétaire de Ricoeur pendant 3 mois. Tant mieux pour lui, mais je veux dire, bon. L'interprétation, c'est dans la distance. C'est-à-dire, c'est dans le recul. Si on est dans l'immersion, on ne peut pas interpréter. Interpréter, c'est mettre devant soi, donc c'est avoir du recul. Il y a une distance interprétative, elle est nécessaire. Eh bien, il y a une distance pour notre compréhension du monde, et il faut rompre le rythme continu. Et sans point de vue ni garantie, eh bien, bien sûr, les informations, l'anonymat échappe à toute interprétation. Et l'invisibilité met fin à toute responsabilité. C'est pour ça, enfin, c'est pas par rapport aux fake news, mais nous, on a écrit un petit manifeste de une recherche scientifique responsable. Et nul ne peut dire, dans l'état actuel de ses connaissances, on n'est pas en connaissance de tout, mais dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. Et on peut agir communément. On n'a pas le droit de dire, ah ben oui, mais là, je suis pas responsable. Ben non, on a tous une part de responsabilité dans l'état actuel de nos connaissances et de notre partage de connaissances. Et les scientifiques, toutes disciplines confondues, en ont une. Il faut accepter cette part de responsabilité. Voilà. Et donc, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Toute liberté suppose des limites reconnues, partagées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, voilà, j'ai mis un petit dessin. La vérité qui dérange et le mensonge qui rassure. Et c'est vrai que le relativisme généralisé, organisé par cette foutaise, par le tout se vaut puisque rien ne vaut, permet de gagner du temps, d'organiser l'apathie et la cécité des pouvoirs publics. Et vous le savez comme moi, tous les lobbies industriels le savent parfaitement. Organiser l'apathie, c'est très facile et c'est ce qu'ils font en permanence. Moi, j'aimerais bien que je m'excuse, mon propos va peut-être vous paraître un peu politique. Enfin, je ne plaide pas pour un parti, mais j'aimerais bien que dans la future élection européenne, on considère qu'en dehors du territoire européen, que dans le territoire européen, c'est-à-dire à Bruxelles, il n'y a pas de lobbyistes. Il y en a 5 ou 7 par député. Monsanto est dans les sous-sols du Parlement européen quand même. Enfin, c'est plus Monsanto, c'est Bayer, vous allez dire. Enfin bon, je veux dire, ça c'est inadmissible pour nous, les citoyens européens, ça. Ça, j'aimerais bien que ça soit une loi d'interdiction du territoire européen des députés, les lobbyistes. Ça serait déjà une première chose qui serait une vraie avancée. Parce que l'apathie des pouvoirs publics, elle est savamment organisée. J'y reviendrai. Alors, les facettes multiples de la post-vérité. Donc, l'éventail des techniques post-véritistes est très large. Donc, du tweet impulsif de Trump aux stratégies les plus sophistiquées mise en œuvre par les industriels du tabac, ceux de l'amiante. Et là, je vous renvoie à 2 ouvrages remarquables. L'un qui est déjà paru au livre de poche, c'est le bouquin de Stéphane Foucard en 2014, La fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent les sciences pour nous mettre en danger, chez De Noël, mais il est paru en folio, là. Et le dernier bouquin qui vient de sortir, aussi d'une journaliste du Monde, qui s'appelle Lobitomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie, aux éditions de La Découverte en 2018. Ce sont des mines. Hein. On dit, mais ben moi, je serais politique, j'aurais des bouquins comme ça, je serais une commission parlementaire en train d'étudier en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Elle atteste de tout. Elle fait même, à la fin, tout un chapitre sur prise d'intérêt, avec ce qu'elle a été payée, tout. On a tout. Elle atteste de tout, tout est vérifié, tout est vérifiable, et voilà. Et voilà. Oui. C'est terrible, hein. C'est terrible. Enfin, je veux dire, si ce qui est vrai, et je pense que, voilà, on se dit, mais dans quel monde vit-on, quoi? Moi, je serais politique, je dirais, je commence à étudier ça, puis on se pose des questions, puis on fait des commissions d'enquête, enfin, on essaie de réagir, enfin, bon, voilà. Donc, en tout cas, elles ont tout en commun, toutes ces facettes de la post-vérité, hein, mensonge, foutaise, d'avoir en commun, le trait essentiel, c'est qu'elles sont négatrices, c'est-à-dire elles sont dans la négation. Il s'agit chaque fois de détruire toute possibilité de s'appuyer sur des faits et toute confiance dans des connaissances les mieux établies. Il y a un trait qu'ont tous les complotistes, tous, c'est de ne jamais donner leur source. Jamais. Bah, bien sûr. Sinon, ça ne marche plus. Hein. Jamais. Voilà, il y a le gros problème. Voilà. Et c'est... Donc, la recherche scientifique, vous pensez qu'elle a le tort impardonnable de dissiper les illusions. Et les sciences humaines comprises. Toutes les sciences de la culture. L'industrie du déni, eh bien, c'est l'industrie financée par les firmes pharmaceutiques, chimiques, industrie tabac, alimentaire, les énergies fossiles, les nucléaires. Voilà. Il s'agit plus de désinformer comme au temps de la guerre froide, mais de discréditer la notion même d'information. En outre, la confusion est entretenue par la récusation systématique des médias et de tous ceux qui prétendraient s'en tenir à des faits établis. Alors, je vous ai dit des médias alors que je vous ai parlé d'informations rythmées, etc., mais il y a des médias qui font du boulot, d'investigation, etc. Mais ça, on le nie systématiquement. Il y a quand même des médias, on a de plus en plus d'émissions, c'est vrai, qui sont pas mal documentées. Ça a commencé par les premiers films de Marie-Muriel Robin, je ne sais pas si vous vous rappelez, Le Monde selon Monsanto. Enfin, je dis, c'est une des premières documentaristes, mais il y en a peut-être d'autres avant. Et depuis, bah, il y a eu pas mal de films, de documentaristes qui font du boulot d'investigation, qui donnent leurs sources et qui donnent au moins matière à débat. Voilà, qui montrent que les choses ne sont pas simplistes, mais qui donnent matière à débat. Cette industrie du déni dépasse le lobbying traditionnel par la production en masse de textes scientifiques faussés, c'est là où ça nous concerne à plein régime, faussés à dessein, parce que le doute est quelque chose de fondateur de l'activité scientifique. Il faut douter, ça s'appelle le scepticisme, condition qu'il ne soit pas radical, en évacuant tous les pans de champs de connaissances. Mais le doute, et avec le recul, principe de précaution, etc. Mais là, le doute à dessein. C'est le doute pour semer la confusion, vous comprenez? C'est pas le doute pour réfléchir, en disant il y a peut-être un doute sur tel processus, on va peut-être voir plus d'études. Mais là, il y a un truc qui paraît, et bien il y a plein d'études qui paraissent sur le même sujet et qui faussent la première. Donc c'est organiser la confusion à dessein. Et ça, on n'avait jamais connu. Et donc, multiplication des études incontrôlables, auto-évaluées, inédites, et qui sont... animés par les industriels pour susciter la confusion. C'est à dessein. L'industrie du tabac, et donc Foucard dans son bouquin le montre vraiment très très bien, comment l'industrie du tabac a réussi entre 91, les premières études japonaises montrant, un médecin japonais s'était étonné que des femmes, au Japon les femmes ne fumaient pas dans les années 90, et donc les maris atteints de pathologies du tabac et les femmes développaient des cancers des poumons. Ah ben oui, le tabagisme passif existe. Voilà. Et donc il l'a publié en 91. Eh ben il a fallu attendre 2006 avec les tobacco papers, parce qu'aux États-Unis ils ont l'avantage, nous on n'a pas cet avantage, mais aux États-Unis ils ont l'avantage de publier tout. À un moment donné, on a accès à tout. Donc les tobacco papers, les papiers du tabac, y compris les mails qui s'envoyaient et tout, on a tout eu. Voilà. Et Foucard, il a fait son bouquin là-dessus. Je peux vous dire, c'est affolant, quoi. Comment ils ont organisé la cécité, l'apathie, voilà. Pour montrer que fumer, c'est être libéré. Donc, mesdames, allez-y, fumez. Le tabagisme passif, ça n'existe pas. Voilà. Et en multipliant d'ailleurs, en finançant des études sur les causes du cancer des poumons. Et c'est vrai que les cancers sont des maladies multifactorielles. Donc ils ont financé des études très très chères pour montrer toute la pollution de l'air, les métiers qu'on faisait, pour montrer que bah oui, mais il y a d'autres choses. C'est allumer plein de contre-feux pour justement retarder la prise de décision sur le tabagisme passif. Voilà. Eh bien, même chose en ce qui concerne les scientifiques. Hein, je cite ce qu'a fait aussi Foucard et ce qu'a repris Aurèle. Enfin, Aurèle, pas trop, mais Foucard l'a bien développé. C'est l'appel d'Heidelberg en 92. L'appel d'Heidelberg qui est sorti peu de temps avant le grand sommet, premier sommet de la Terre de Rio, qui était quand même quelque chose de sans précédent. Tous les pays se réunissaient pour essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on pense de l'état actuel de la planète et comment agir tous ensemble. Vaut mieux quand même, hein. Parce que nous, la forêt amazonienne, on y tient. Même si je ne sais pas si j'irai un jour, mais pour respirer, on y tient. Vous voyez, on est quand même sur un même pamplemousse. Hein. Il suffit pas de couper le bout du pamplemousse pour maintenir le nord avec le sud. Voilà, voilà. Bon, presque. Quelques jours avant le sommet de Rio, il y a eu un contre-feu sorti qui s'appelait l'appel d'Heidelberg. L'appel d'Heidelberg a été signé par des scientifiques tout à fait, des intellectuels tout à fait remarquables, Umberto Eco, Pierre Bourdieu, Ilya Prigogine, plus de 60 ou 100 prix Nobel. Remarquable, hein. Un extrait. Deuxième phrase de l'appel d'Heidelberg. Alors, notre héritage commun, la Terre. Toutefois, nous nous inquiétons d'assister à l'aube du XXIe siècle à l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique et social. Nous soulignons que nombre d'activités humaines essentielles nécessitent la manipulation de substances dangereuses ou s'exercent à proximité de ces substances. Il a été prouvé par la divulgation des documents, mis sur eux, que l'appel a été rédigé par les firmes de l'amiante. Il a été rédigé par les firmes de l'amiante. C'est quand même quelque chose. Et les scientifiques l'ont signé. Alors là, j'ai vu récemment l'appel d'Heidelberg X années après, quoi, on est en 2019, il y en a qui disent « Ah ben moi, je l'aurais peut-être pas signé ». Puis d'autres qui disent « Ah ben oui, mais ce qu'on a dit, c'est juste. Hein, c'est vrai qu'il faut préserver notre héritage commun et tout. » Il n'y en a aucun que j'ai vu, Bourdieu est mort, hein, bon, c'est dommage, mais aucun que j'ai vu qui a dit « mais on s'est fait manipuler quand même ». Il n'y a pas que des choses fausses dans l'appel d'Heidelberg, mais il fallait faire un contre-feu avant le sommet de la Terre. Il y en aurait qui voudraient quelque part nuire. Oui, il y avait tous les peuples indigènes au sommet de la Terre de Rio. C'est ça les activités humaines essentielles, la mutilation de substances dangereuses. Les peuples indigènes, ils sont contre, hein, c'est sûr. Donc, comme quoi, il y a quand même des manipulations à des plus hauts niveaux. Bon, sans jeter le bébé avec l'eau sale du bain, mais néanmoins, vous voyez, la manipulation, et ça a été... voilà. Et maintenant, c'est prouvé, hein, je veux dire. Ils l'ont même reconnu que c'était eux qui l'avaient écrit. Vous vous rendez compte? Ah, quand même. Bon. Alors, j'en arrive au... Alors, technosciences, j'ai mis techno, là, j'avais mis dans mon résumé les sciences à l'heure des fake news, j'ai mis les technosciences, parce que malheureusement, quand on parle des sciences... la fusion entre sciences techniques et production, elle a franchi un pas quand même très très important. La fraude dure, existe depuis longtemps. Ça, c'est certain. Il y a des échantillons fabriqués de toutes pièces. La fraude, même molle, existe depuis. C'est pas d'hier. Hein. Mandel a traficoté ses petits pois. Voilà. Mais il croyait tellement au Seigneur et au bien et à la. C'est un moine, et à la perfection de la nature, que ce qu'elle est pendant ses petits pois, il est... voilà, Mandel a trafiqué ses petits pois, c'est pas un scoop, c'est connu, mais ça n'empêche pas de prendre en compte les expériences de Mandel. Voilà. Certes, mais aujourd'hui, c'est complètement banalisé, et c'est ce que Testard, dans ce qu'il a écrit, appelle le faux besogneux ou la fraude molle. Alors, la fraude est un terme qui désigne la fabrication de l'altération de données, aussi bien que le plagiat, voilà. Le problème du faux non conforme à l'expérience et à la vérité des faits. Il peut s'agir d'un faux délibérément inventé, là on est vraiment dans la fabrication du faux, ou seulement dans altérer pour les rendre conformes à la démonstration. C'est ce qu'on appelle la fraude molle. Et cette perversion atteint même aujourd'hui l'évaluation des articles scientifiques, c'est-à-dire le peer reviews. Et puisqu'on a contre-feu avec plein de publications pour masquer les publications qui iraient jusqu'à amener des preuves, notamment de la toxicité, tabagisme passif ou que sais-je, eh bien, on a aujourd'hui le ghostwriting, c'est-à-dire des auteurs, des fausses identités d'évaluateurs et des auteurs d'articles rédigés sous contrôle des industriels pour vanter les productions des industriels. Voilà, c'est l'écrivain fantôme, voilà, ghostwriting. Le faussaire mou, celui qui est dans tous nos laboratoires et, disons-le franchement, dont nous avons quelquefois été les auteurs. Voilà. On ne fabrique pas nos résultats. On n'invente pas les faits ou des expériences dans un but délibéré de tromper, mais on peut altérer des chiffres, on peut altérer des images pour aider à la démonstration, on peut rajouter une ou deux souris dans le groupe parce qu'il y en a trop qui sont mortes, etc., etc. On peut aussi aller jusqu'à, puisque les chercheurs sont évalués au nombre de publications, prendre en gros le contenu d'un même article et le republier en y changeant quand même quelques trucs. Qui n'a jamais fait ça, lève la main. Bon, on n'est pas nombreux, hein. D'accord, mais c'est pas vrai. Pas vrai. On sait bien que c'est pas vrai. Alors, le recours aux statistiques, c'est un recours quelquefois fétiche, bien commode, plutôt que de... Alors, les statistiques, ça, j'ai rien contre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... En plus, je travaille en textométrie, donc en statistique textuelle. Mais, quelquefois, l'histogramme suffit à être la preuve. Ben non, c'est l'objet de l'observation. Après, il faut interpréter. Comprenez ? Comme si, hop, ça y est, tel chiffre, j'obtiens de meilleurs résultats, c'est quantifiable, etc. La recherche au service du prestataire, la multiplication des études émanant des entreprises financées par elles, c'est ce que Foucault appelle dans son bouquin sur... de 2014, le funding effect, c'est-à-dire l'effet financement. Bah oui, maintenant, les financements sont des partenariats publics-privés. Hein, je parle essentiellement des facs de sciences, mais je peux aussi parler des facs de lettres, je suis dans les deux. Voilà. Le brevet, les chercheurs sont de plus en plus invités à déposer des brevets plutôt que des articles. Voilà. Et l'effet start-up, montez votre start-up. Et là, l'effet start-up est quand même... le chercheur poussé à développer une start-up pour valoriser ses découvertes peut-il encore être perçu comme étant mu par le seul idéal désintéressé de production de connaissances? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Donc vous voyez, il y a quand même plein de biais, quoi. Il faut, et c'est pour ça que la responsabilité scientifique, il faut qu'on le dise, même si on est, bah oui, on sait très bien que quand on dépose un projet, RIN, ANR, machin, faut avoir quand on a un partenariat avec le privé, puis quand on a des résultats quantifiables, et puis quand on emploie certains mots qui sont à la mode, eh ben, on obtient plus de financement que quand on dit, ben non, nous, on va descendre au niveau de l'échelle individuelle et on va prendre en compte les utilisateurs. Et donc, c'est un sacré vrai problème. Et on a des innovations donc financièrement prometteuses qui sont encensées sans mesure par les organismes officiels d'expertise qui peuvent garantir que ces technologies soient prouvées, et elles ont des effets incertains, mais elles surviennent comme par issue inespérée à de cuisants échecs technologiques, voire à de puissantes angoisses mondiales. Là, il y a le petit machin sur la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, quand elle est sortie à Sciences Citoyennes, ça les a fait bien marrer. Alors, il y a des scientifiques, il y a des citoyens, donc il y a à peu près tous les champs disciplinaires, c'est assez marrant. On dit, ah ouais, c'est des gens qui... Alors, le truc qu'ils avaient pensé, pour le réchauffement climatique, vous en faites pas, c'est très positiviste, la science pourvoira au problème. Voilà. On ne sait pas comment, mais ça pourvoira au problème. Hein. Savoir pour pourvoir, c'est le vieux dicton d'Auguste Comte, ça. Donc, on pourvoira. Donc, c'est pas la peine de changer nos comportements, de consommer moins ou de consommer différemment. On trouvera la solution. Alors, le réchauffement climatique, gros problème. Eh bien, pas de problème. Le réchauffement climatique est lié au rayonnement solaire. Donc, empêchons les rayonnements solaires. Et alors, ils ont pris le cas du volcan, le Pinatubo, je crois que c'est celui-là, ou le je sais plus quoi, qui a eu une explosion au 18e siècle, là je dis peut-être des bêtises. Bref, ça a envahi la Terre d'un nuage de poussière, ça a refroidi l'atmosphère de 2-3 degrés. Eh ben, parfait, on va balancer des ions d'argent dans l'atmosphère, ça va renvoyer le soleil. on aura un ciel jaune toute l'année, mais on est tranquille. Alors, il y en a même qui ont pensé détourner la ceinture d'astéroïdes pour changer les rayonnements solaires. Je déconne pas, hein. C'est-à-dire les trucs les plus fous. Alors, bon, ça faisait rigoler parce que c'était pas dans le rapport du GIEC. Ah bah oui, mais le mot géo-ingénierie est rentré dans le dernier rapport du GIEC. Ouais, dans le dernier. Alors, pas avec ces trucs totalement folklore, mais avec des trucs totalement improbables. Des tiges pour aller capturer le carbone puis l'enfouir, enfin, des trucs mais impossibles. La Terre va se gonfler de carbone, on sait pas où le mettre. Mais on a la solution technique. Le réchauffement climatique, pas de problème. C'est-à-dire, toujours, c'est cette idée. Coup de la ceinture d'astéroïdes, c'est un fusil à un coup. Hein. On se trompe, c'est foutu. Je veux dire, non mais vous imaginez les expériences, le taux de reproductibilité de l'expérience, là? Mais je vous assure, hein, ça a été écrit, ça a été... Puis c'est... Enfin, on se dit, mais c'est de la rigolade. Ben non. Et les mots à la mode, ben aujourd'hui, ben, elle parlait hier d'ailleurs à la tête au carré, notre collègue Catherine Bourguin, qui a aussi écrit dans le bouquin, qui est professeure et enfin qui est directrice de recherche à l'INSERM en épidémiologie et en épistémologie. Elle parlait du cas CRISPR-Cas9. Il suffit maintenant dans un appel ANR ou un appel autre de mettre CRISPR-Cas9 et c'est la manipulation géniale qui s'appelle le couteau suisse. Pour les propulser médiatiquement, parce que ça serait capable de répondre aux promesses qui datent il y a plus de 30 ans de manipulation maîtrisée du génome. Parce que tout ce qu'on a raconté sur le génie génétique, à savoir vous avez une cellule là, vous savez, avec une petite aiguille qui rentre en disant c'est ça la manipulation, le génie génétique, c'est fou, hein. C'est des bombardements et on ne sait pas où ça se fixe. C'est ce qu'on très très bien expliqué, parce que ça, il y a eu un boulot d'explication qui a payé. Très très bien expliqué, les scientifiques, mais aussi les gens qui ont été formés comme les faucheurs volontaires pour la campagne qui a pris quand même plusieurs années contre les OGM. Ils ont expliqué ce qu'était la technique OGM. Du bombardement. Et on ne sait pas où ça se fige. Et en montrant que ce qu'on appelait des plantes phytosanitaires, de la phytosanitaire, c'était du pesticide, et que la plante, c'était pas, on n'y aspergeait pas des micro-trucs bien dosés, contrairement à de l'épandage machin, c'est que la plante, elle était insecticide de sa racine jusqu'au sommet, tout le temps, et que c'était une éponge. Ça, ils l'ont bien montré. Donc la manipulation, le génie génétique est de la manipulation. Mais manipulation, c'est un terme péjoratif. Donc on parle de génie génétique, parce que le génie, c'est une science exacte. C'est la science qui servait à construire les ponts, les forces, les machins. Hein. Génie, voilà, les bataillons du génie, c'était ça au départ. Hein. Donc c'est une science de l'ingénieur. Mais quand on parle du génome, donc CRISPR-Cas9, ça serait le couteau suisse merveilleux. Donc je vous renvoie à ce qu'a dû dire Catherine. Je ne l'ai pas écouté, mais je pense de savoir ce qu'elle a dû dire. Vous mettez dans un appel ANR CRISPR-Cas9 et vous avez votre ANR. Voilà. Parce que vous allez utiliser le couteau suisse. Voilà, je caricature à peine, je vous assure. J'aimerais bien. Alors, maintenant, si on en arrive aux publications. Alors là, moi, c'est aussi mon précédent boulot, parce qu'avant d'être maître de conférence en sciences, enfin en linguistique, j'ai été bibliothécaire pendant 15 ans, donc je connaissais bien le problème des BU et de la publication. J'étais à la Bibliothèque universitaire des sciences de Rouen. C'est de là dont je suis devenue, enfin c'est à partir de là dont je suis devenue linguiste. Je pourrais vous expliquer si vous voulez. Et le problème des publications, c'est que c'est l'objet de tous les dangers. Entre 1975 et 2012, il y a une étude publiée dans Nature. Il y a une multiplication par 10 de retraits d'articles pour cause de fraude dans 67% des cas. C'est pas anodin quand même. 2% des fraudeurs chez les chercheurs. Étude de 2016 dans l'ouvrage de Chavachus au Louis, Malscience de la fraude dans les labos, publié au Seuil. Ça fait quand même 140 000 personnes. C'est pas anodin. Hein. L'accès au contenu est problématique. Alors vous allez dire, bah non, aujourd'hui, on a accès au contenu des revues. Alors on peut mettre, il y a la course de vitesse avec HAL. Pour garder un accès pérenne sur HAL. On est tous invités à mettre sur HAL, etc., etc. D'ailleurs, moi, il faudrait que je le fasse un peu plus. Bon, maintenant, je vais peut-être avoir un peu plus de temps, mais bon. Eh ouais. Mais parce que vous savez pourquoi ? Et j'ai demandé à mes collègues de la BU, et c'est toujours le cas. Moi, quand j'étais à la bibliothèque universitaire, donc j'ai occupé différents postes, et j'ai été un moment responsable des périodiques. Au moment où il y a eu le grand choc pétrolier de 73, bon, j'étais pas à la bibliothèque universitaire à cette époque-là, mais les bibliothèques, fallait payer en dollars, donc il y a eu une grosse crise. Les bibliothèques se sont massivement désabonnées parce que ça coûtait hors de prix. Hein. Ouais, mais elles ont gardé leurs archives. Tandis qu'avec le numérique, quand une bibliothèque se désabonne, les archives appartiennent à l'éditeur. Donc non seulement elles perdent l'abonnement, mais elles perdent leurs archives. Donc il y a des trous qui s'organisent comme ça. Sur les épaules de qui allons-nous monter, comme disait Newton, pour voir plus loin si on n'a pas les archives? On va les payer avec quel dollar? C'est un sacré problème. Donc l'accès au contenu est problématique, alors qu'aujourd'hui il ne devrait pas l'être, justement. Alors, il y a des ripostes qui s'organisent, etc., mais c'est des ripostes éparpillées. Autrement dit, on est en train de revenir à une situation d'avant 1539. 1539, c'est le dépôt légal de François Ier. Il a eu un truc de génie, hein. C'est le roi le plus intelligent qu'on ait peut-être jamais eu. Enfin, je trouve qu'au point de vue des archives, il a eu une idée de génie. C'est d'obliger toute publication sur le territoire national à être déposé à la Bibliothèque nationale et dans une bibliothèque de la région de production du document. Autrement dit, vous pouvez, vous comme moi, aller à la nationale et consulter des ouvrages, même si cet ouvrage n'a été que lu par 10 personnes, et ben, il est déposé à vie à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et ben ça, dans l'avenir, il y a des trous. Donc, cours après moi que je t'attrape, on essaie de faire des archives alternatives, etc. Qui plus est, le numérique, on sait très bien que c'est un colosse au pied d'argile, parce que un ouvrage du XVIe siècle, on peut bien le lire, d'ailleurs mieux que le XIXe siècle, parce que le papier se moisit tout seul, hein, on ne savait pas doser le... Ça, c'est moi qui j'ai eu un diplôme de livre ancien, donc là, je connais un peu. Il y a un vrai problème sur les ouvrages du XIXe siècle. Il y avait trop d'acidité dans le papier, on ne savait pas le doser. On arrive mieux à lire des bouquins sur la chiffre, hein, qui était faite avec du chiffon, que des bouquins d'après. Mais on peut les consulter. Ben, qu'est-ce qu'on pourra consulter quand il n'y aura plus les systèmes d'exploitation? Il faut tout le temps, trouver des moyens de conserver nos archives dites dématérialisées. Puis une bonne panne d'électricité ou un orage solaire, je peux vous dire que ça peut faire mal. Pas sur un bouquin du 18e. Alors on en arrive aux revues prédatrices, parce que ça c'est un sacré problème. Et les revues prédatrices, quand même 10 000. Alors là je vous ai mis, ce qui est paru dans Le Monde, c'était au mois de octobre 2018, il y a eu un rassemblement de plein de journalistes, d'associations, de sociétés, etc., qui ont publié le canular scientifique, revue prédatrice et slow science. Slow science, je crois que c'est comme slow food. Moi, je suis vraiment pour. Il faut urgemment ralentir pour réfléchir. Il faut faire moins, faire mieux et faire ensemble. Pas faire les uns contre les autres. Je crois que c'est une belle condamnation à laquelle on devrait c'est pas une condamnation, c'est une ouverture. Mais faire moins, surtout faire moins. Moins dans nos publications. La société indienne qui s'appelle Omics International commercialise plus de 700 revues scientifiques où les articles sont acceptés en quelques heures. Moyennant finance et propose aussi des certificats de participation à des milliers de conférences bidonnées. En Chine, on peut vous faire un CV en quelques heures. Il y a la Chine, l'Inde, la Turquie qui sont les paradis fiscaux, si je peux dire, des revues prédatrices. Voilà. Et donc, elle publie des articles qui, sans être systématiquement mauvais, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'on peut ne pas voir le truc et envoyer un article qui est honnête. Hein. C'est pas tous des articles bidonnés. Mais ça échappe à toute évaluation d'un comité de lecture, quels que soient les biais que peuvent avoir les comités de lecture. Et donc, entre recherche vite faite ou recherche mal faite et recherche validée, la frontière tente vraiment à s'amenuiser. Ça, c'est un sacré problème. Tout comme s'amplifie le problème de la reproductibilité des résultats. Les chercheurs n'obtenant pas les mêmes résultats en reprenant les mêmes méthodes ou les mêmes données composent avec un système éditorial qui n'invite ni à publier les résultats négatifs. On ne publie jamais les résultats négatifs. Or, pourtant, ils sont porteurs. Ben oui, il ne s'agit pas de rater pour comprendre, faire comme les Shadocks, on sait qu'il y a une chance sur 10 000, donc on rate les 9 900 avant, puis on a la chance de réussir. Mais les échecs sont porteurs de connaissances, bien entendu. Et ça, on ne peut pas les publier. Et alors, les auto-rétractations. Peut-être pour ça qu'aucun des prix Nobel ne s'est auto-rétracté d'avoir signé l'appel d'Heidelberg. Je ne sais pas. C'est comme si c'était phobique, quoi. Comme s'ils étaient entachés de quelque chose. Je trouve qu'ils sont un peu plus entachés en ne le faisant pas. Disant, écoutez, le contenu était peut-être bien, mais c'est en accusant quand même cette industrie de l'amiante de leur avoir menti. Donc, c'est ce que... Il y a la science faite, avec ce que je viens d'en dire, et il y a London Science, la science non faite. Et celle-ci, c'est le continent noir. Et c'est pour ça que nous, à Sciences Citoyennes, on plaide pour, non pas la science participative, mais la recherche participative. Celle qui prend en compte les problématiques de ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique, c'est-à-dire la société. C'est pas seulement aux scientifiques. Pas seulement. Quand on est dans le domaine de la recherche fondamentale, bon. Mais c'est pas seulement aux scientifiques de décider des programmes de recherche. Il y a aussi les besoins de la société. Le besoin de comprendre des phénomènes très complexes. Et ces phénomènes complexes font en partie appel aux recherches très interdisciplinaires. Et l'interdisciplinarité, un certain nombre de gens dans cette salle pourront vous dire à quel point elle est valorisée. La semaine prochaine va se tenir, la semaine prochaine, le 29 mars 2019, va se tenir une journée de l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Bordeaux, vous voyez comme quoi c'est un problème, qui s'intitule « Reproductibilité en recherche » organisée par donc l'URFIST de Bordeaux. Voilà. La non-publication des expériences qui ratent et des auto-rétractations. Et donc on a une stratégie scientifique qui est axé sur les stratégies commerciales, et les réflexions sur la post-vérité ne peuvent pas faire l'économie, donc de s'interroger avec effet rebond sur des politiques publiques libérales en se fixant l'objectif de construire, c'est ce qu'a déclaré l'Union européenne en 2000, c'est la stratégie de Lisbonne, une économie de la connaissance la plus compétitive, la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une grande cohésion sociale. Voilà. Pour reprendre donc les termes de la stratégie de Lisbonne, stratégie qui a été reprise dans les termes là assez récemment, qui s'intitule « Croissance intelligente, durable et inclusive ». Et donc, cette stratégie de Lisbonne, c'est par cette stratégie de Lisbonne, en s'appuyant sur elle, que les gouvernements ont assigné au savoir scientifique un horizon économique. Il est là le problème. Je crois qu'il faut vraiment marcher sur deux pieds. Il y a les applications, et il en faut, bah bien sûr, hein, et les domaines industriels, etc. Et il y a la recherche scientifique qui doit travailler en toute indépendance. Aujourd'hui, le mot « science appliquée » n'existe plus, vous avez remarqué. On l'a remplacé par le terme « innovation ». Quand j'avais écrit ma thèse en 97, cette thèse que j'ai soutenue, et elle est parue aux éditions de l'organisation sur « Terminologie, documentation pour une meilleure circulation des savoirs », ça c'est en aparté, je m'étais déjà interrogée sur le mot « innovation ». Le mot « innovation » qui était un mot nouveau à l'époque. Et l'innovation, en fin de compte... Contrairement à la recherche, on dit « innovation, c'est de la recherche ». Les deux mots sont similaires, c'est pas vrai. D'abord, la synonymie n'existe pas, elle est dans des contextes différents. Si c'était le même sens, ce serait le même mot dans tous les contextes, mais c'est pas vrai. L'innovation, c'est trouver des créneaux à occuper. C'est-à-dire qu'on a des créneaux porteurs, et hop, on met des recherches pour l'occuper. Comprenez ? Tandis que la recherche... On fait de la recherche et on voit tous les domaines d'application possibles. Et quelquefois, ces domaines d'application, c'est de la recherche il y a très très longtemps. Hein, qu'on fait les suites de Fibonacci. Fibonacci, c'était quand même un mathématicien italien du 16e, 17e 16, merci. Alors c'est assez marrant parce que quand un jour IBM a eu un problème de bug sur ses machines... Il y a un informaticien d'IBM qui a résolu le problème en disant qu'il faudrait s'appuyer sur les suites de Fibonacci. C'est arrivé à IBM International. Et le message a été envoyé par IBM International à IBM en France. Le gars était français, je crois, qui a trouvé ça. Et le message d'IBM International, c'est « embauchez-le ». Ben non, au XVIe siècle. Là, ils l'ont affiché partout. J'avais un copain qui bossait à IBM. Ça a été le truc le plus affiché. « Embauchez-le ». Génial. Comme quoi, c'est pas parce que c'est un vieux pot que ça fait pas des jeunes soupes. Voilà. Donc, vous voyez, assigner au savoir scientifique un horizon économique, c'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Voilà. Et donc, cette science non faite, on essaie dans la science de détecter donc les objectifs scientifiques, c'est de détecter, de favoriser les savoirs les plus susceptibles d'entrer dans un univers marchand, de générer de l'activité économique et donc d'organiser à cette fin des partenariats publics-privés. C'est pour ça que ceux qui, dans leurs appels à financement, puisque maintenant le CNRS n'est plus un organisme pérenne de financement de la recherche, mais on fonctionne tous par projet, hein, eh bien, c'est là où il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers. Donc, deux dimensions sont donc importantes pour discuter, pour réfléchir sur l'articulation entre science et post-vérité. La première, donc, a trait aux conditions actuelles de production des savoirs scientifiques, telles que j'en ai parlé, aux conséquences au rôle des politiques libérales qui leur sont assignées. Ça, c'est un vrai problème à discuter, hein. La seconde s'intéresse plus spécifiquement au choix des questions qui mobilisent la recherche et aux mécanismes qui conduisent à privilégier certaines questions sur d'autres et aux implications de ces choix. Et une analyse de la géographie de la science faite permet aussi de mettre en miroir la géographie des sciences non faites, les « undone science » dont je parlais, les trous de savoir qui en résultent et les enjeux de pouvoir et de domination que ces géographies impliquent. Et donc, la question des sciences non faites est vraiment à l'articulation entre les sciences et la post-vérité pour au moins deux façons. D'une part, parce qu'elle porte à s'interroger sur des éléments qui poussent à considérer un résultat comme ressortissant de la vérité. Autrement dit, où commence la post-vérité, où commence l'interrogation légitime sur est-ce que c'est au nom d'un intérêt général que l'on fait ça véritablement, ou est-ce au nom de bénéfice de quelque chose. Elle contribue donc, d'autre part, à semer le doute, et donc à donner de l'eau aux moulins qui sont malheureusement de plus en plus nombreux, qui, faute de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent, se tournent vers d'autres formes de connaissances, d'autres formes de croyances, et ces formes de croyances ne s'astreignant pas au rythme de production et d'exigence des savoirs scientifiques, et donc la porte ouverte au complotisme, oui, on s'accroche à ce qu'on peut. Et donc, la collègue Catherine Bourguin, qui s'est intéressée à ces sciences non faites, a fait une étude épidémiologique, puisqu'elle est à l'INSERM, sur les effets des polluants autour de l'étang de Berre, hein, du côté de Fos-sur-Mer, et sans que soit démontrée la relation causale entre l'excès de toux et l'asthme, très important relevé par les médecins autour des étangs de Berre, donc la constater l'effet de ces polluants, trois enquêtes qui ont été faites, hein, ont conclu à l'impossibilité de faire un lien entre l'asthme, les toux et les polluants. Mais les questions posées lors de ces enquêtes ont été orientées vers l'outil de mesure utilisé, en l'occurrence les registres d'hospitalisation, et la position des capteurs n'a jamais été remise en cause, notamment. Et elle n'a jamais été prise en compte. Où sont les capteurs et où sont le vécu et les pathologies de la population. Et surtout, les enquêtes menées ont toujours été menées en termes de population et jamais en termes d'individus. Ça reprend le propos que je vous disais au début. La prise en compte de la dimension des sciences de la culture, c'est la prise en compte du particularisme. Et c'est pas vrai que ce n'est pas scientifique. Mais ça, son mode de validation propre et de reproductibilité propre. On aurait pu croiser les expositions collectives à des données individuelles, par exemple. Alors, j'ai bientôt terminé, rassurez-vous. Construire l'escalier des vérités objectives. Alors, j'ai pris volontairement, ceci n'est pas une pipe de le tableau de Magritte, ceci n'est pas un fake, parce que nous faisons la dissociation entre fait et fiction. Le particularisme, l'individualisme, enfin le subjectivisme le plus poussé, c'est l'artiste, c'est l'expérience non reproductible, c'est le tableau. Et ceci n'est pas une pipe, c'est Magritte, mais oui, puisque c'est la reproduction, c'est le tableau d'une pipe. Voilà. Et donc, il met son spectateur en situation de recul. Ce n'est pas la réalité, c'est le tableau que j'ai fait d'une pipe. Et donc, on a un phénomène qui est français, qui a émané de la France, qui s'appelle le déconstructionnisme qui serait un des pans qui a donné beaucoup d'eau au moulin de la post-vérité. Et là, je vais parler en linguiste. Donc, parmi le discrédit du délitement apporté au contexte de la construction du sens des mots, dispense de savoir, de répondre à la question « comment je le sais ?». Du point de vue de la théorie de la connaissance, fondée sur l'ontologie, c'est-à-dire l'ontologie fixiste, de relations sémantiques figées. Les mots doivent servir à figer la vérité entre la chose et les idées. Ce figement de sens a conduit à une séparation entre mots et ses contextes d'interprétation et d'actualisation. C'est la transformation incessante dont je vous parlais au début. Et ce figement passe pour une preuve de scientificité. En conséquence, les objets d'étude des sciences humaines et sociales ont été marqués du sceau du discrédit. Deux principes. Deux voies se sont alors ouvertes, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais néanmoins deux grandes voies se sont alors ouvertes pour les sciences humaines et sociales. La première calque par souci de reconnaissance et de financement ses méthodologies sur celles des sciences dures et appliquées, en cherchant à isoler des noyaux durs de sciences à portée universelle. C'est ce qu'a fait Chomsky. J'ai beaucoup de respect pour Chomsky en tant qu'homme états-unien, mais je ne suis absolument pas les écrits de Chomsky en tant que linguiste. Il s'est fait d'ailleurs une grosse reconnaissance en travaillant pour l'industrie, l'informatique. Hein, parce qu'on va retrouver des grammaires universelles, donc, et cette quête d'une grammaire universelle a été source d'un gros financement. Il n'a peut-être pas fait pour ça, mais néanmoins. La seconde consiste à prétendre à ce qu'il n'y ait plus de faits, mais seulement des interprétations, relativisme radical de principe, la porte des faits alternatifs, puisqu'à chacun sa vérité a-t-elle été ouverte. Et là, je me réfère à un article de Roger Puyvert, qui s'est servi aussi, lui, du livre de Mathieu d'Ancona. Et son article, c'est « Les origines de la post-vérité chez les intellectuels français ». Et l'auteur s'appuie donc sur le bouquin d'Ancona pour rappeler la responsabilité du courant déconstructiviste français qui, en décrétant la mort du sens, trouve aujourd'hui un large écho devenant l'idéologie de la post-vérité. Le contextualisme radical de la déconstruction a amené un « à chacun sa vérité ». Je vous ai parlé du contexte, mais pas du contextualisme radical du « à chacun sa vérité », puisqu'il n'y a de vérité que partagée et dans l'interaction, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Cassirer, le philosophe des formes symboliques. En déconstruisant le signe saussurien « dualité signifiant signifié », Lacan puis Derrida ont sonné le glas du signifié pour ne garder que l'enveloppe vide d'un signifiant sans signification. Si cette définition délirante du langage convient certes à certaines psychoses, pas de problème, Lacan était psychanalyste. Et là, je cite mon collègue et ami François Rastier dans le bouquin qu'il a écrit « Faire sens de la cognition à la culture » qui est paru en 2018. « Mais le parti pris souverain, continue-t-il, de l'interprète de Derrida justifie l'interprétation, mais non le texte, donc non l'attestation. » À chacun sa vérité, je peux dire. Il y a des signifiants, mais il n'y a plus de signifiés. Il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas de contexte. Et donc le texte est réduit à un prétexte. Et là, je terminerai. Mais je terminerai pas tout à fait, j'ai encore deux diapos. Là, j'ai lu il y a deux jours la réponse de Frédéric Lordon, économiste atterré, à Emmanuel Macron, qui l'avait invité au débat des intellectuels. Frédéric Lordon a refusé d'y aller. Et la réponse de Lordon, elle est assez succulente. Je ne vais pas vous la lire dans l'intégralité. Mais Frédéric Lordon lui répond, donc c'était il y a deux jours. Et c'est sur le site d'Attaque, de l'association Attaque nationale. Hein, je veux dire, voilà. La réponse de Lordon, c'est « Monsieur le Président, il le qualifie de start-up nation ». Pas tout à fait tort. En ce qui concerne ses sbires ministériels, vous détruisez le langage. Exemple de destruction du langage, on supprime des lits pour améliorer la qualité des soins. On démantèle le code du travail pour étendre la garantie des salariés. On augmente les droits d'inscription des étudiants étrangers par souci d'équité financière. Et on fait une loi sur les fake news pour garantir le progrès de la liberté de la presse et une loi anti-casseurs pour protéger le droit de manifester. Et on supprime l'ISF dans une politique de justice sociale. J'ai cité Macron, Buzyn, Pénicaud, Vidal et Macron. Voilà, Macron. Voilà. Et donc, c'est ce que reproche Frédéric Lordon à notre président actuel. Vous voyez bien, monsieur le président, qu'on est dans autre chose que le simple mensonge. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. Bon, voilà par quoi je terminerai. Reconstruire l'escalier des vérités objectives. Alors, qu'est-ce que ça voudrait? Quelles sont les pistes? Parce qu'il ne faut quand même pas se battre la coulpe. Il y a des pistes, heureusement. Voilà. La post-vérité n'est pas un objet de recherche en tant que tel, pas plus que les fake news ne doivent faire l'objet d'une loi, ni le complotisme tourné en dérision. Se moquer des complotistes, ça amène rien. Il faut amener à travailler, comme le fait notre collègue Michel Goldberg à l'Université de La Rochelle, qui est biologiste, épistémologue et biologiste, qui mène à l'Université de La Rochelle depuis plusieurs années une formation auprès de ses étudiants de biologie à la pensée critique. Et aujourd'hui, je vous ai dit, il y a beaucoup de bouquins qui sortent. Il y a eu le bouquin, d'ailleurs, elle était au débat, elle y est allée, de Myriam Revaud-Dallone, « La faiblesse du vrai », le sous-titre de ce bouquin, ce que la post-vérité fait à notre monde commun. Quand j'ai vu ce bouquin, je me suis empressée de l'acheter et donc de le lire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Myriam Revaud-Dallone? Elle s'attarde sur l'histoire tourmentée des rapports entre politique et vérité, en référence au modèle de Platon et Aristote, c'est tout à fait intéressant, mais elle ne trace aucune perspective. Et elle n'hésite pas à dire, et elle l'a dit, elle l'a répété après, que la post-vérité était un produit de notre système démocratique, qui c'était finalement une vitalité de notre système démocratique. Je crois que dans ce que je viens de dire, j'ai un peu prouvé le contraire, que ce n'était pas une vitalité de notre système démocratique. Alors, il y a d'autres recherches, j'ai rien contre les sciences de l'infocom, mais néanmoins, où des gens qui, comme Sébastien Dieguez, a écrit plusieurs bouquins, Total Bullshit au cœur de la post-vérité aux éditions du PUF, en 2018. Hein. Il a écrit un autre bouquin, enfin, un autre article en 2017, qui s'intitule « La face cachée du cerveau », dans Cerveau et Psycho. Et Sébastien Dieguez, il cherche pour les neurosciences à déceler le neurone du buzz. Bon, voilà. Il y a une autre collègue qui s'appelle Divina Fraumex, qui pour les sciences de l'information pense que ces sciences-là apporteront des réponses agiles, soft et smart à la mesure des enjeux sociétaux de la désinformation. La post-vérité serait de ce point de vue un nouvel objet de recherche relevant des sciences de la nature, une sorte d'épidémiologie, puisqu'il faut lutter contre les fake news comme on lutterait comme un virus, c'est elle qui le dit, avec un vaccin pour développer un véritable système immunitaire, à ce que Fabienne Blaise, qui est actuelle rectrice de l'Académie de Grenoble, la malinformation. Donc, débusquer la malinformation pour en défaire les désordres et retourner à ce que ces auteurs disent, une bonne information en conditions normales. Je crois que c'est pas, il n'y a pas de bonne information en conditions normales. Je ne sais pas ce qu'est une condition normale. En l'occurrence, il y a des conditions objectives qui peuvent œuvrer à rétablir et à reconstruire le chemin, l'escalier des vérités. La première, ça passe par une formation à la pensée critique, ça c'est sûr, ralentir le rythme des sciences, il y a plein de mesures à prendre. Et là, j'ai mis in fine les conventions de citoyens. Si vous ne savez pas ce que c'est que les conventions de citoyens, c'est un petit peu développé c'est un groupe de citoyens tirés au hasard, hein, ni plus ni moins. Alors, ça ne va pas être le groupe de citoyens tel qu'il va se faire pour le grand débat de notre président, puisque ces citoyens sont tirés au hasard, certes, mais ils ne vont recevoir aucune formation. Tandis que les conventions de citoyens, il y a un comité de pilotage qui, avec l'accord de tous, voit quels sont les gens qui vont venir former ces citoyens et avoir tous les points de vue contradictoires, c'est-à-dire se forger son intime conviction, mais en connaissance de cause. Oui, ça prend du temps, mais c'est le chemin de l'escalier qui prend du temps. Et il n'y a pas de démocratie sans qu'on soit acculturé au débat qu'on doit mener. Sinon, il y a « posez-moi votre question et je prends 8 heures pour répondre ». Ce n'est pas ce que j'appelle un débat. On n'est pas à égalité. Voilà. ce pourquoi je voulais finir. Donc, le bouquin à paraître, voilà. Il paraîtra au mois de mai. Un petit bouquin, il ne va pas coûter cher, je pense. Hein. En tout cas, nous, on ne touche rien. On l'a dit à l'éditeur. Non, c'est tout gratuit. Alors, on aura l'introduction autour de la post-vérité et des dangereuses convergences de François Rastier. Post-vérité, une maladie intellectuelle guérissable. Jean-Jacques Rosa, qui est l'éditeur d'Orwell, un des éditeurs d'Orwell. Pascal Angel, qui est quand même un philosophe épistémologue très connu, surtout du point de vue scientifique. La fraude dans les sciences de Jacques Testard. Les sciences aux critiques de la post-vérité, les sciences non faites par Catherine Bourguin. L'étude des controverses à thème social et scientifique par Michel Goldberg, l'université de La Rochelle. Et l'opinion française et le conspirationnisme, retour sur une enquête critiquée par Reichstag et Igounet, qui sont les fondateurs du site Conspiracy Watch. Et donc, j'ai modestement essayé aujourd'hui de rendre compte de ces écrits en faisant l'introduction, la conclusion de ce bouquin, en ayant organisé ce séminaire, cette table ronde, et en montant aujourd'hui avec le plus de gens possible, puisqu'il ne suffit pas d'être adhérent pour participer, un atelier au sein de Sciences Citoyennes sur ces questions de post-vérité. Voilà, je vous remercie.